fascicule qui va vous servir un petit peu de guide. Je suis assez fier de cette photo parce que maintenant on ne peut plus la faire. Hein, on va à la mairie, on vous dit, oh là, il fait beau aujourd'hui, je voudrais faire une photo depuis le haut du clocher. On va vous dire, mais vous avez prévenu les pompiers, vous avez une corde de rappel, vous avez ceci, vous avez cela. Et c'est pas du tout pour critiquer ceux qui me disent ça. Mais les choses sont devenues beaucoup plus difficiles qu'il y a 10 ans ou 15 ans quand j'ai fait cette photo. Hein, dans ce temps-là, on allait, dit, je suis l'abbé Blot, j'aime bien votre église, est-ce que vous pouvez passer la clé pour que je monte en haut du clocher? Voyez, les choses changent et on n'y peut rien. Hein, il faut être extrêmement prudent. C'est pour ça que vous avez tous un masque sous les yeux. Hein, faut le garder malheureusement pour vous. Mais pas sur les oreilles. Donc c'est bon. Donc tout de suite vous voyez que vous avez un site un peu hors du commun. Alors évidemment, les moines en ont un petit peu rajouté. Les moines, c'est des poètes. Avec leur histoire de croix comme ça, ils marchaient. Et... Oula. Qu'est-ce que c'est? Ah bon? J'ai chaud quand même. Bon. Ils marchaient, puis d'un coup il y a une croix comme ça. Bon, c'est l'histoire aux portes de la légende. Je pense que, évidemment, ce lieu avait un intérêt stratégique évident. Hein, quand on est à la confluence des deux grandes rivières de Bretagne, l'Ouste, enfin, supposé que la Vilaine soit bretonne à ce moment-là, peu importe, mais on est juste à la confluence, évidemment, c'est des rivières qui drainent énormément de possibilités, il y avait des frontières pas très loin, etc. Donc c'est un site, on peut dire, stratégique, et en plus, qui a été... ça a été implanté pas par des moines de bas étage, si vous voulez, convoyants, tout ça. C'était quand même des gens de noblesse, on pourrait dire. Hein, qui, d'ailleurs, il n'empêche que le résultat est là. Vous vous trouvez devant un des églises, des édifices majeurs de Bretagne. En tout cas, à mes yeux. Et majeur avec un M majuscule. Et si vous regardez la dernière page maintenant, quand je compare le plan de cette église au plan de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel, je me dis, si j'avais à choisir, je pense que je choisirais Saint-Sauveur de Redon. Mais forcément, le site n'est peut-être pas exactement le même. Et pourtant, le site de Redon, vous êtes de Redon, le site de Redon est quand même magnifique. Alors moi, j'ai toujours rêvé qu'il y aurait quand même un jour des pluies diluviennes et tout, que tout ça, ce serait quand même un îlot sur l'immensité des eaux. Hein. Ça a pu arriver par le passé. Ça n'est peut-être pas souhaité complètement, mais c'est vrai qu'elle prend toute sa stature quand on l'imagine quand même sur ces étendues de marais où elle se reflèterait, si vous voulez. C'est du verre, mais ça pourrait être aussi de l'eau. Hein. Les temps changent également, peut-être que vous ne verrez plus jamais d'inondation, mais c'est arrivé, hein. Et donc Redon vit au rythme, c'est pas une marée, mais au rythme des saisons, hein, c'est évident, avec cette eau qui monte et qui descend, et c'est assez particulier, et je peux pas m'empêcher de dire que c'est grand un peu, c'est un site qui est grand. Voilà, hein, je ne vais pas m'étendre tellement sur ce site, mais c'est un grand site. Une chose qui me touche aussi, c'est que c'est un relais des marcheurs de Saint-Jacques. Peut-être que dans votre jeunesse, on ne vous parlait peut-être pas beaucoup de ces chemins de Saint-Jacques. Tout ça, ça a été lancé au XXe siècle, bien sûr. Hein. Mais le fait que Redon soit la convergence de toutes les voies qui partent du Finistère, des Côtes d'Armor et du Mont-Saint-Michel, par exemple, je pense que c'est à prendre en considération dans notre regard sur cette église. En tout cas, pour moi, qui suis le prêtre autoproclamé des Jacquets, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre que moi. Alors forcément, l'été dernier, j'ai eu la chance de bénir un point zéro dans le à Pont-Croix, dans le Finistère, Finistère Sud, et ce chemin que je bénissais, il va passer par Redon. Et j'ai d'ailleurs été très très ému de ça, j'ai composé un chant, j'ai dit je ne vais pas venir tout seul, vous me bénissez tous avec moi. Et ils étaient limités à 100, ils étaient quand même 140, et puis bon, on a fait une belle bénédiction, et nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques, mesdames, messieurs, mais aussi sur le chemin du Mont-Saint-Michel. Et c'est ça qui me touche le plus. Vous savez, dans toutes les grandes abbayes bénédictines avaient une façade. Bon, cette façade romane a disparu, vous le savez bien. Mais la chapelle de l'étage de cette église était dédiée à Saint-Michel, comme dans toutes les grandes églises. Et si on voulait partir vers le Mont-Saint-Michel, on passait par la rue Saint-Michel. C'était déjà les... Disons, Saint-Michel est présent. Et après, on attendait, après avoir longé la Vilaine et tout ça, on arrivait à Rennes. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, la statue qui culminait au-dessus de Rennes, c'était une statue de Saint-Michel. Parce que l'abbaye Saint-Melaine avait aussi, dans la chapelle de sa façade, une chapelle dédiée à Saint-Michel. Et au XVIIe siècle, quand on voit des gravures, et bien, en-dessus de la tour, il y a encore une grande statue de Saint-Michel. Comme c'était le point culminant de Rennes, eh bien Saint-Michel aussi était là. Alors il y a quelque chose qui me déçoit un peu, c'est que nos amis de Loire-Atlantique, c'est des brutes. Excusez-moi, il y en a peut-être ici parmi vous. Bon, c'est une blague, je les adore. Bon, mais ils ont lancé un chemin vers le Mont-Saint-Michel qui part de Clisson, et qui ne passe pas par Redon. Alors j'ai manifesté quand même ma déception. Tout ça pour gagner une étape. Ils se privent de passer quand même à Saint-Sauveur-de-Redon. Mais c'est incroyable. Vous êtes bien d'accord avec moi? Sauf s'il y a quelqu'un de l'Atlantique dans la salle. Bon, tant pis. Bon, même quelqu'un de l'Atlantique, en réfléchissant, pourrait comprendre que toute cette chaîne de grandes abbayes bénédictines, c'est ça qui constitue les chemins. Et mon rêve que je vous partage, ce serait que le chemin entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Jean-d'Angély, mettons, c'est-à-dire la voie de Tours, soit inscrit au patrimoine mondial, de façon que jusque du Mont-Saint-Michel à Saint-Jacques-de-Compostelle, on ait un chemin entièrement au patrimoine mondial. Pourquoi sommes-nous exclus, mesdames, messieurs, alors qu'on a tant de trésors à faire partager? Je dis ça aussi pour les élus, parce que dans la conjoncture, il faut voir grand. Il faut se dire, on a une belle chose, on en est responsable, on va essayer de la faire valoir. Or, quand on a une église comme ça, ça vaut vraiment la peine. Alors, je pleurerais bien en disant que cette église n'est pas au mieux de sa forme. Que, par exemple, quand on a cru faire une merveille d'enlever tous les enduits dans les années 1930, on a peut-être frappé un petit peu fort, parce qu'on a lessivé les murs, et sur ces murs, il y avait quand même des enduits romans, qui ont disparu aussi, à ce moment-là. Bon, après, ça pourrait être pire. Voilà. Donc, ça, c'est un petit préambule, mais j'aimerais que... Je vous présente un petit peu le livre. Après cette belle photo, qu'on ne peut plus faire, donc rien que ça, ça vaut déjà 3 euros, si vous voulez. Hein. Bon, eh bien, j'ai fait un plan de l'église telle qu'elle est aujourd'hui. En ocre, là, c'est le mobilier. Par exemple, cet orgue de chœur qui est là, alors que le chœur maintenant est là, et qui asphyxie la chapelle de la Vierge, c'est peut-être pas idéal comme emplacement. Bon, alors, je vais montrer, il est. Là, je montre l'église avec son mobilier, ses confessionnaux dispersés ici ou là, tel qu'il est aujourd'hui. Mais à la fin, je montre avec un petit peu d'audace quelques petits changements qui pourraient être opérés. Hein? Mais c'est pas, ça n'est absolument pas un ordre. C'est juste une réflexion que je me fais. Bon, voilà, vous voyez tout de suite que c'est une église qui est originale, avec une nef un petit peu raide comme ça, un chœur très régulier, des annexes ici ou là, une sacrée église. Alors là, sur un fond de ciel bleu, j'ai mis mon petit chapeau introductif. Eh ben, je peux vous le lire ? Vous le lisez comme moi. Hein. Avec les cathédrales de Dole et de Saint-Malo, ainsi que l'abbatiale Saint-Mélène de Rennes, l'abbatiale Saint-Sauveur de Redon est le monument médiéval le plus prestigieux d'Ille-et-Vilaine. D'autant plus que le cartulaire de l'abbaye est une source majeure pour l'histoire de la Bretagne au temps carolingien et au-delà. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Là, je dépasse un peu Marc Desneux, parce qu'il s'est arrêté là. Le XVIIe siècle, qui voit la reconstruction du cloître et des bâtiments abbatiaux, marque aussi l'église, notamment avec un des retables les plus spectaculaires du Grand Ouest. L'incendie de 1780 entraîne d'importantes modifications qui ne sont pas sans intérêt. Oui, parce que moi, tous les livres que j'ai lus sur la... Là, ils ont fait les grosses erreurs, ils ont été catastrophiques et tout. Pas du tout. Ils ont sauvé les deux tiers de la nef, alors qu'un architecte plus prestigieux voulait la faire sauter complètement. Ils ont été des héros, les Redonnais. Parce que c'est la ville de Redon qui a refusé que la nef soit supprimée. Voilà. Survint la Révolution. Comme les abbatiales de Saint-Gilles-d'Adébois, c'est pas très loin de chez vous, hein. C'est sur mon étape, mes étapes vers Compostelle. Hein. Saint-Gilles-d'Adébois, Saint-Main, Pimpon, Saint-Mélène de Rennes, l'église Saint-Sauveur doit son salut à sa réaffectation cultuelle. C'est pour ça que l'église était pleine ce matin. Parce que c'est devenu une église paroissiale. La période paroissiale qui s'ouvre alors peut être l'occasion d'observations stimulantes, bien entendu. Ça dure depuis plus de 200 ans. C'est-à-dire, ça compte 200 ans. Hein. En cette année 2021, vous voyez, ça date déjà un peu mon affaire, c'est le moment de regarder attentivement ce monument hors du commun, car à partir de décembre, il y a toujours du retard, hein. On est en février, là, que je sache. Bon, le chœur sera fermé 3 ans pour restauration. Voilà. Donc, vous pouvez constater que je me suis appliqué pour, en quelques pages, résumer quantité de périodes. Je m'admire, mesdames, messieurs. Alors, les périodes romanes. Ben oui, parce qu'on dit toujours la période romane. Maintenant, d'ailleurs, les historiens branchés disent la période carolingienne, parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de différence entre l'architecture carolingienne et l'architecture romane. Bon. Alors, nous, les périodes romanes. Je suis un peu vieux jeu, mais tant pis. Mais il y en a deux, c'est-à-dire le XIe siècle et le XIIe siècle. Et maintenant, d'ailleurs, on fait la césure entre le XIe et le XIIe siècle. Bon, c'est les ouvrages récents, historiques, mais ça vaut le coup de les lire. Alors, j'ai essayé quand même de valoriser pour cette période, évidemment, la nef. Elle est extraordinaire. Elle reste extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai mis ? Nef autrefois inondée de lumière. Ben oui, parce qu'il y avait des grandes baies dans... Maintenant, elle est aveugle. Saisissante à présent de grandeur sévère et de mystère. C'est l'idée que je m'en fais. Elle reste attachante, cette nef. Mais réjouissons-nous. Jadis, ces six travées étaient réservées aux moines. Ben oui, j'étais un petit peu vache. Heureusement que les moines sont partis, parce que sans ça, il n'y aurait eu personne dans l'église ce matin. Parce que la nef, on a toujours entendu dire que la nef faisait 11 travées. Bon, c'est faux. Elle faisait 9 travées plus 2 travées. Ce qui est quand même pas exactement la même chose. Les deux travées de l'entrée étaient les travées qui correspondaient à la tour romane qui a existé. Parce que ça, on en est sûr, parce qu'il y a eu des plans très précis au 18e, c'est tout ça. Par Piou, d'ailleurs, par celui qui a sauvé les deux tiers de la nef. Les 9 travées, c'est très intéressant. Parce que je ne vais pas vous apprendre que 9, c'est par rapport à toi, c'est quoi? 3 fois toi. Hein? C'est comme si on vous dit que 27, c'est un chiffre formidable. C'est 3 fois 3 fois 3. Il y a 27 documents dans le Nouveau Testament. Hein, c'est incroyable, c'est pas par hasard. Hein, c'est tombe pile. Et la nef romane faisait donc 9 travées. Bon, il y a encore les. Il y en a 6, mais il suffit d'en rajouter 3 qui étaient semblables. Et puis au-delà, il y avait la tour, qui reposait effectivement sur deux correspondants à 2 travées. Alors, vous savez peut-être pas le mot travée. Le travée, c'est ces espaces qui sont balisés par des arcades. Hein, vous avez compris ce que je vous ai dit là? Ah oui. Non, excusez-moi, hein, s'il y a quoi que ce soit qui vous trouble, vous dites, mais Roger, mais je ne comprends rien du tout à ton truc. Alors, il n'y a pas de souci, hein, vous allez pouvoir le réexpliquer. Hein. Donc, ces 9 travées, j'ai considéré que les 3 du haut étaient réservés au cœur des moines. D'ailleurs, ça se voit encore sur les plans anciens, il y avait des stalles et tout ça, pour la liturgie des heures. Après, les 3 autres étaient réservés à ceux qui travaillaient pour l'abbaye, les frères converts, comme on disait. Et les autres, les pèlerins ou les braves redonnais, étaient dans les 3 dernières travées. Vous voyez, donc les 6 travées que vous utilisez maintenant pour la messe, eh bien, vous n'y aviez pas accès autrefois. Réjouissez-vous, bonnes gens. Hein? Et puis, j'ai remarqué ce matin que vous remplissiez l'église à partir du haut. Alors, vous êtes une paroisse formidable. Il y en a, moi, Saint-Marc-sur-Pénon, c'est mon coin. Il commence par le premier qui arrive, il commence par le dernier banc. Puis après, ça monte, mais en général, ça s'arrête à la moitié. Alors, ça complique un peu les affaires. Tandis que vous, hop, comme ça, formidable. Puis, j'avais l'impression, en entendant la chorale, que j'étais dans une église russe. Alors, il paraît qu'il y en a qui sont partis, parce qu'ils ont cru que j'étais favorable à l'intervention de M. Poutine. Mais vous rêvez quand même. Alors, non, pas du tout, hein, pas du tout. Mais ceci dit, on ne peut pas nier que Kiev soit, disons que la ville russe la plus ancienne avec Novgorod. Mais bon, c'est comme si, j'ai dit, c'est comme si nous, sous prétexte qu'à Bruxelles, ils parlent français, on va envoyer nos chars et nos... C'est horrible ce qui se passe. Hein? Donc, alors... J'ai un peu... Oui! J'ai dit aussi qu'il y avait quelque chose d'étonnant. C'est que, d'après ce que je vois, la construction de l'église actuelle, je ne parle pas de l'église de Convoyant ou des églises successives des premiers temps, en bois, tout ça, ou en pierre. Sa construction fut entreprise vers 1030 par l'abbé Catualon. Je pense que c'est raisonnable de dire ça. Et ce qui m'a troublé, c'est que quand j'ai lu sur Internet ce qu'on disait de cette église de patrimoine mondial qui est Sainte-Sophie de Kiev, sa construction commença, dit-on, en 1033. Pareil, d'un côté à l'autre de l'Europe, on se mettait à édifier des églises géantes, comme ça, c'était à la même époque. Et l'église Sainte-Sophie de Kiev garde les plus bels ensembles de mosaïques du XIe siècle. Incroyable. Alors, c'est tellement beau que c'est un musée. Mais j'ai l'impression que M. Poutine... Dès qu'il va pouvoir y aller, il va rendre grâce dans Sainte-Sophie avec le pape derrière lui, quoi. Ah, c'est affreux, hein. C'est affreux. Il faut réagir. Comment? Je sais pas. Alors, c'est pour vous dire que c'est pas la seule église de ce temps-là. Mais nous, quand même, le début du XIe siècle, la construction a duré longtemps. Le plan qu'avait fait M. Martin, là, à mon sens, il est assez exact. Il met en valeur cette tour qui a disparu en façade, vous voyez. Mais il y a toujours un petit truc qui me gêne, c'est que le mur des bas-côtés est lisse, c'est-à-dire on ne voit pas de bas-côtés. Or, il suffit que vous alliez à l'extérieur, vous allez voir très nettement les traces de bas-côtés. Il y avait donc... il a un peu forcé l'idée que la nef romane était d'une sobriété absolue. En fait, pas vraiment. Il montait en même temps que les murs, des contreforts plats. C'était monté en même temps que les murs, mais ça pouvait se décoller, effectivement. Mais ça raidissait les murs, quoi. Et donc, ça faisait partie des méthodes de construction romane. Et il suffit d'observer, c'est d'ailleurs, même pour faire des plans, c'est des indices, parce qu'il y avait tout un rythme. Une chose qui m'a... Parce que je guette la beauté de cette église. Et cette nef qui est maintenant obscure, je dis, elle est pleine de mystères, elle va m'aider à prier. Bon. Évidemment, c'est un peu... Les moines n'avaient pas voulu comme ça. Ils l'avaient voulu, déjà inondé de lumière, avec des grandes baies qu'on devine encore si on regarde. Bon. Mais, alors, j'ai lu aussi que dans les bas-côtés, il n'y avait pas du tout le même rythme de fenêtres que dans la nef. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit dessin, là, où il y a les toits en rouge, en tuiles, parce qu'elle était couverte de tuiles. Alors là, je dois m'excuser parce que il y a eu un petit raté. Alors, on fait toujours ça frénétiquement, hein, c'est ce genre de petit livre, il faut que ce soit bouclé le lendemain. Alors bon, c'est la panique. Et à un moment donné, on a déplacé... alors, je vois côté sud, le petit dessin, et puis après, je vois côté nord, le petit dessin, vous voyez. Le côté nord, il y a les petites barres rouges, là, qui ne correspondent pas aux barres rouges en dessus. Il y a eu un petit décalage. Normalement, ça devrait être pile-poil, comme ça. Et là, on verrait qu'il y avait quand même une organisation des bas-côtés. C'est-à-dire que là où il y avait trois grandes baies dans la nef, vous voyez, il y avait quatre baies dans les bas-côtés. 3 plus 4, combien ça fait ? 7. C'est les champions des bons chiffres, les moines. Ils ne font pas ça par hasard. C'est-à-dire que tu mets d'abord 3 grandes baies en haut et puis 4 petites en bas. C'est comme si je disais « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Je prie Dieu. Dieu, c'est 3. Il fait 3 vœux. Pour la terre, que ton nom soit sanctifié. Je fais 4 vœux pour la terre. C'est moins important, mais 3 plus 4. Ou bien si j'énumère les vertus, alors les vertus théologales ou les questions de Dieu, la foi, l'espérance, la charité, les vertus qui traitent de nos relations humaines, la force, la justice, la prudence et la tempérance, 3 plus 4. C'est inscrit en quelque sorte dans nos gènes, ces choses-là. Il y a une harmonie qui est en nous. Je ne sais pas comment ça se fait. Le nombre d'or, enfin des choses comme ça, c'est en nous. Et quand on est attentif à tout ça, eh bien, on le remarque. Donc je veux dire que même si vous avez une nef romane, avec des bas côtés romans, qui contraste très fort avec le cœur, elle n'est pas du tout dérisoire. Elle est d'une grande noblesse. Vous voyez ? Et puis elle nous rappelle quand même que ça a été la plus grande église de Bretagne en son temps. Et une chose que j'ai remarquée en faisant le plan, je vous dis un petit peu les choses que j'ai vues. Parce que tous les plans que j'avais vus, le transept, c'était parfaitement nickel. Tout était d'équerre dans le transept. Et c'est une erreur. Dans le transept... c'est un trapèze. C'est-à-dire que le fond est plus large que l'entrée. Et ça monte ce biais que c'est pas étonnant que le cœur actuel va en se rétrécissant. Vous l'avez tous remarqué. Hein, ça va en se rétrécissant. Sur un plan, on le voit facilement. Eh bien, tout ça, c'est déjà induit dans la forme du transept. Et tout ça, ça nous montre que en fait, le cœur gothique est sur les fondations du cœur roman. Ça, on peut en être sûr, archi sûr. D'ailleurs, regardez ces petites colonnettes. C'est des quadrilles, on a bien. Il y a quatre demi-cercles. Ici, il y a un demi-cercle. Mais ce demi-cercle-là, il est roman. Et ça peut se voir facilement au lit de pierre, etc., qui correspond à ça. C'est roman. Et ça donne le modèle de ces colonnes. Quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, non, c'est chouette. Il y a encore des traces romanes. Et tout ça, ça nous... Vous me suivez ? C'est une église grande, mais fine, pleine de symboles. Bon, j'ai passé mon temps quand même à faire les plans là. Vous pouvez regarder ça de plus près parce que quand on est dans le transept et qu'on voit cette peinture, c'est extraordinaire cette peinture. On n'en voit pas beaucoup, t'es comme ça en Bretagne.